France Inter. Les admirations littéraires de
François Sureau. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire entendre la voix d'André Breton. André Breton, c'est une porte qui s'est ouverte dans notre jeunesse et qui ne s'est jamais refermée. Et même si nous sommes passés dans d'autres pièces du château, cette porte reste pour nous la porte des sortilèges, et avec eux, de cette autre réalité du monde dont le mouvement a porté le nom. Et sans doute, le messie surréaliste n'a pas changé le monde comme il l'aurait voulu, laissant derrière lui de grandes œuvres à côté de celles de ses amis, Desnos, Éluard, Aragon, Bellemare, Dali, Bronner, Mata, Magritte et tant d'autres. De ses œuvres, il prétendait ne pas se soucier. « Je ne suis pas de ceux, écrivait-il, qu'on trouvera la plume à la main à l'horreur dernière. » Il avait hérité, lui athée, d'une exigence janséniste, parlant de Pascal comme personne, mais aussi de Sade, de Lautréamont, de Rimbaud, préférant le silence, pourvu qu'il soit hanté, à, ce sont les mots de Jacques Vacher, son ami de jeunesse, je cite, « une réussite dans l'épicerie », c'est-à-dire dans la carrière des lettres. Il nous reste un remords qui nous garde des illusions du succès et une grande impatience de tout. C'est cette voix que nous aimerions, Victoire et moi, vous faire entendre aujourd'hui.
André Breton.
Mélusine après le cri, Mélusine au-dessous du buste, je vois miroiter ses écailles dans le ciel d'automne. Sa torsade éblouissante enserre maintenant par trois fois une colline boisée qui ondule par vagues selon une partition dont tous les accords se règlent et se répercutent sur ceux de la Capucine en fleurs.
André Breton est né à Tingebray, dans l'Orne, le 18 février 1896. Il commence en 1913 ses études de médecine et en 1915 est mobilisé dans le service de santé des armées. Il entre en correspondance avec Apollinaire et rencontre Jacques Vacher qui aura sur lui une influence décisive. En 1919, il publie avec Soupeau les Champs magnétiques. Le manifeste du surréalisme, le premier manifeste, paraît en 1924. Et en 1926, il rencontre Léona Delcourt, dite Nadja, rencontre dont il tirera un livre incomparable.
Les années 24 et 25, qui sont celles où le surréalisme se formule et s'organise, seront sans doute celles qui nous trouveront les plus activement rebelles à tout conformisme. Le monde où nous vivons nous fait l'effet d'être totalement aliénés. Nous révoquons d'un commun accord les principes qui le mènent, au premier rang desquels figurent ceux de famille, de patrie et de religion. En vérité, une volonté de subversion générale nous possédait.
Il adhère un temps au Parti communiste français, puis le quitte, rebuté par le jdanovisme. Les amis du début se quitteront alors, Aragon et Éluard restant fidèles au stalinisme. Il s'exile à New York en 1940, et le surréalisme ne retrouvera pas tout à fait le même éclat dans l'après-guerre. Il meurt à l'hôpital Lariboisière le 28 septembre 1966. Il est enterré au cimetière des Batignolles. On peut lire sur sa tombe « André Breton, 1896-1966, je cherche l'or du temps ». Il nous reste, écrit Julien Gracq, une silhouette éternellement mobile et fugace, qu'étant la grande aventure, pareil à celle des chevaliers errants qui disparaissent derrière leur coup de lance, est vraiment de toutes la plus lancinante. Le premier texte est tiré d'un de ses textes les plus célèbres, qui est l'introduction au discours sur le peu de réalité. Sans fil. Voici une locution qui a pris place trop récemment dans notre vocabulaire, une locution dont la fortune a été trop rapide pour qu'il n'y passe pas beaucoup du rêve de notre époque, pour qu'elle ne me livre pas une des très rares déterminations spécifiquement nouvelles de notre esprit. Ce sont de faibles repères de cet ordre, qui me donnent parfois l'illusion de tenter la grande aventure, de ressembler quelque peu à un chercheur d'or. Je cherche l'or du temps. Qu'évoquent-ils donc ces mots que j'avais choisis ? À peine le sable des côtes, quelques faucheux entrelacés au creux d'un saule ou du ciel, car c'est sans doute simplement l'antenne à grande surface, puis des îles, rien que des îles, la Crète, où je dois être Thésée, mais Thésée enfermé pour toujours dans son labyrinthe de cristal. Télégraphie sans fil, téléphonie sans fil, imagination sans fil, a-t-on dit. L'induction est facile, mais selon moi, elle est permise aussi. L'invention, cette découverte humaine, cette faculté qui, dans le temps, nous est si parcimonieusement accordée de connaître, de posséder ce dont on ne se faisait aucune idée avant nous, est faite pour nous jeter dans une immense perplexité. De la part de la vérité, cette pudeur nous alarmerait moins si, de temps à autre, elle ne faisait mine de nous céder, de nous abandonner le plus insignifiant de ses secrets, pour revenir bien vite à ses réticences. La mauvaise humeur de la plupart des hommes, qui à la longue n'ont plus consenti à être dupes de ces révélations dérisoires, qui se sont tenus une fois pour toutes aux seules données invariables, comme on regarde les montagnes, la mer, les esprits classiques, enfin, leur vaut cependant de ne pas tirer tout le parti possible d'une vie, qui, je l'accorde, ne se distingue pas par essence de toutes les vies passées, mais ne doit pas non plus, tout à fait en vain, se voir assigner de telles limites. André Breton, 1896-1600. Je suis dans un vestibule de château, ma lanterne sourde à la main, et j'éclaire tour à tour les étincelantes armures. N'allez pas croire à quelques ruses de malfaiteurs, l'une de ces armures semble presque à ma taille. Puissais-je la revêtir et retrouver en elle un peu de la conscience d'un homme du XIVe siècle? Ô théâtre éternel, tu exiges que non seulement pour jouer le rôle d'un autre, mais encore pour dicter ce rôle, nous nous masquions à sa ressemblance, que la glace devant laquelle nous posons nous renvoie de nous une image étrangère. L'imagination a tous les pouvoirs, sauf celui de nous identifier en dépit de notre apparence à un personnage autre que nous-mêmes. La spéculation littéraire est illicite dès qu'elle dresse en face d'un auteur des personnages auxquels il donne raison ou tort, après les avoir créés de toutes pièces. L'amitié a joué dans la vie d'André Breton un rôle considérable, ami nouveau, perdu, ami avec lesquels il s'est fâché tout au long de querelles qui ont résonné très fortement entre les deux guerres. Le premier de ses amis, celui auquel il a consacré des pages incomparables qu'il cite dans le premier manifeste, était ce personnage étrange qui s'appelait Jacques Vacher.
Nous nous sommes rencontrés dans un hôpital de Nantes où je faisais fonction d'interne et où il était en traitement. Ceci nous reporte au premier mois de 1916. Il me frappa tant par le caractère très étudié de sa contenance que par le ton ultra dégagé de ses propos.
Voici un extrait des Pas perdus. Trois mois plus tard, Jacques était de nouveau à Paris. Il vint me voir, mais me quitta très vite pour aller ce beau matin-là se promener seul le long du canal de l'Ourcq. Je revois ce long manteau de voyage jeté sur ses épaules et l'air sombre avec lequel il parlait d'une réussite dans l'épicerie. « Vous me croirez disparu, mort, et un jour, tout arrive », il prononçait ce genre de formule d'une voix chantante, « vous apprendrez qu'un certain Jacques Vacher vit retiré dans quelque Normandie. Il se livre à l'élevage. Il vous présentera sa femme, une enfant bien innocente, assez jolie, qui ne se sera jamais doutée du péril qu'elle a couru. Seuls quelques livres, bien peu dites, soigneusement enfermés à l'étage supérieur, attesteront que quelque chose s'est passé. » Même cette illusion devait l'abandonner peu après. La lettre du 9 mai 1918 en fait foi. La dernière étape de la vie de Jacques Vacher est marquée par cette fameuse lettre du 14 novembre que tous mes amis savent par cœur. Je sortirai de la guerre, doucement gâteux, peut-être bien à la manière de ces splendides idiots de village, et je le souhaite, ou bien, quel film je jouerai. Avec des automobiles folles, savez-vous, des ponts qui cèdent et des mains majuscules qui rampent sur l'écran vers quelques documents inutiles et inappréciables, avec des colloques si tragiques en habits de soirée. Et ce délire, plus poignant pour nous que ceux d'une saison en enfer. Je serai aussi trappeur, ou voleur, ou chercheur, ou chasseur, ou mineur, ou sonneur, bar de l'Arizona, whisky, gin and mixed, et belles forêts exploitables. Et vous savez, ces belles culottes de cheval à pistolet mitrailleuse, avec étang bien rasé et de si belles mains à solitaire. Tout ça finira par un incendie, je vous dis, ou dans un salon, richesse faite, well. Jacques Vacher s'est suicidé à Nantes quelque temps après l'armistice. Sa mort eut ceci d'admirable qu'elle peut passer pour accidentelle. Il absorba, je crois, 40 grammes d'opium, bien que, comme on pense, il ne fût pas un fumeur inexpérimenté. En revanche, il est fort possible que ses malheureux compagnons ignoraient l'usage de la drogue et qu'il voulût, en disparaissant, commettre à leur dépens une dernière fourberie drôle. Je n'ai pas pour habitude de saluer les morts, mais cette existence que je me suis plu et déplu à retracer ici et qu'on s'en persuade presque tout ce qui m'attache encore à une vie faiblement imprévue et à de menus problèmes. tous les cas littéraires ou artistiques qu'il faut bien que je soumette passent après. Et encore, ne me retiennent-ils qu'autant que je puis les évaluer en signification humaine, à cette mesure infinie. C'est pourquoi tout ce qui se peut réaliser dans le domaine intellectuel me paraîtra toujours témoigner de la pire servilité ou de la plus entière mauvaise foi. Je n'aime, bien entendu, que les choses inaccomplies. Je ne me propose rien tant que de trop embrasser. L'étreinte, la domination seules sont des leurs, et c'est assez pour l'instant. Qu'une si jolie ombre danse au bord de la fenêtre par laquelle je vais recommencer chaque jour à me jeter.
Jacques Baron, la plupart des gens qui parlent de Breton nous parlent surtout de la grande figure du surréalisme, mais pour vous, Breton, c'est un personnage beaucoup plus familier, je crois.
Breton avait non seulement un sens de l'humour dans le sens littéraire du mot, mais un sens de l'humour dans la vie. Quelquefois, n'est-ce pas, la manière dont on était habillé, ça l'amusait, n'est-ce pas. Si on mettait par exemple une cravate rouge un jour de pluie, il disait que c'était ridicule. Mais tout ça, sur le ton farceur.
Il aimait beaucoup taquiner ses amis aussi.
Il aimait beaucoup taquiner ses amis. Il aimait les prendre en défaut de réalité.
Il avait besoin de voir ses amis tout le temps et souvent.
Oui, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait ces réunions à peu près quotidiennes au café Cyrano, par exemple, sur la place Blanche.
Je vous parlais du goût d'André Breton pour l'amitié. André Breton avait un rêve de phalanstère, le rêve de réunir ses amis, le rêve de vivre avec eux. Et vous allez maintenant entendre la description qu'il donne de ces lieux dans lesquels il aurait aimé rassembler ses amis.
Pour aujourd'hui, je songe à un château dont la moitié n'est pas forcément en ruine. Ce château m'appartient. Je le vois dans un site agreste, non loin de Paris. Quelques-uns de mes amis sont installés à demeure, etc., etc. On me convaincra de mensonges poétiques. Chacun s'en ira répétant que j'habite rue Fontaine et qu'il ne boira pas de cette eau. Parbleu. Mais ce château, dont je lui fais les honneurs, est-il sûr que ce soit une image? Si ce palais existait pourtant, mes hôtes sont là pour en répondre. Leurs caprices et la route lumineuse qui y mène, c'est vraiment à notre fantaisie que nous vivons, quand nous y sommes.
C'est un thème qu'il traite ici pour la première fois dans le premier manifeste du surréalisme et qu'il reprendra ensuite, en 1932, dans Le revolver à cheveux blancs.
À ce propos, je voudrais louer, je ne dis pas même acheter, une propriété dans les environs de Paris. Rien de fabuleux, seulement une trentaine de pièces, avec autant que possible de longs corridors très sombres, ou que je me chargerai d'assombrir. Qu'il soit possible à qui que ce soit, des gens divers, à qui j'aurais donné rendez-vous, d'y entrer et d'en sortir de jour et de nuit, sans que cela provoque d'esclandre, etc., etc. Il ne saurait s'agir pour l'instant d'entrer plus avant dans les secrets d'une telle communauté. Mais si tout à coup un homme entendait, même en pareil domaine, que quelque chose se passa, s'il était vraiment lui résolu à n'ouvrir la bouche que pour dire « il y aura une foi ».
Les admirations littéraires de François Sureau.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre. Comment se fait le cœur content à lancer cailloux sur l'étang. Je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi, souvenez-vous-en. Et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil. J'ai vécu le jour des merveilles. Ses doigts se dénouent comme le front avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune. Nous avons fait des clairs de lune. Et j'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts. Les les mers et les secrets, j'en dirai, j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante. Au violon s'use l'archet, la pierre au jeu des ricochets. Et que mon amour est touchante, près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. Pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
François et Victoire Sureau lisent des textes d'André Breton.
Et maintenant, voici ce texte que les initiés, puisque c'était un mot propre au vocabulaire surréaliste, connaissent par cœur. C'est le début du premier manifeste. Tant va la croyance à la vie. À ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle s'entend. Qu'à la fin, cette croyance se perd. L'homme, ce rêveur définitif, de jour en jour plus mécontent de son sort, fait avec peine le tour des objets dont il a été amené à faire usage et que lui a livré sa nonchalance ou son effort presque toujours, car il a consenti à travailler, tout au moins il n'a pas répugné à jouer sa chance, ce qu'il appelle sa chance. Une grande modestie est à présent son partage. Il sait quelle femme il a eue, dans quelles aventures risibles il a trempé. Sa richesse ou sa pauvreté ne lui aide rien. Il reste à cet égard l'enfant qui vient de naître, et, quant à l'approbation de sa conscience morale, j'admets qu'il s'en passe aisément. S'il garde quelque lucidité, il ne peut que se retourner alors vers son enfance, qui, pour massacrer qu'elle ait été par le soin des dresseurs, ne lui en semble pas moins pleine de charme. L'absence de toute rigueur connue lui laisse la perspective de plusieurs vies menées à la fois. Il s'enracine dans cette illusion. Il ne veut plus connaître que la facilité momentanée extrême de toute chose. Chaque matin, des enfants partent sans inquiétude. Tout est prêt. Les pires conditions matérielles sont excellentes. Les bois sont blancs ou noirs. On ne dormira jamais. Mais il est vrai qu'on ne saurait aller si loin. Il ne s'agit pas seulement de la distance. Les menaces s'accumulent. On cède. On abandonne une part du terrain à conquérir. Cette imagination qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer. Que selon les lois d'une utilité arbitraire, elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et, aux environs de la 20e année, préfère en général abandonner l'homme à son destin sans lumière. Qu'il essaye plus tard, de ci, de là, de se reprendre, ayant senti lui manquer peu à peu toute raison de vivre, incapable qu'il est devenu de se trouver à la hauteur d'une situation exceptionnelle telle que l'amour, il n'y parviendra guère. C'est qu'il appartient désormais, corps et âme, à une impérieuse nécessité pratique qui ne souffre pas qu'on la perde de vue. Tous ses gestes manqueront d'ampleur, toutes ses idées d'envergure. Il ne se représentera de ce qui lui arrive et peut lui arriver que ce qui relie cet événement à une foule d'événements semblables, événements auxquels il n'a pas pris part, événements manqués, que dis-je ? Il en jugera par rapport à un de ces événements plus rassurant dans ses conséquences que les autres. Il n'y verra, sous aucun prétexte, son salut. Chère imagination, ce que j'aime surtout en toi, c'est que tu ne pardonnes pas. Le seul mot de liberté est tout ce qui m'exalte encore. Je le crois propre à entretenir indéfiniment le vieux fanatisme humain. Il répond sans doute à ma seule aspiration légitime. Parmi tant de disgrâces dont nous héritons, il faut bien reconnaître que la plus grande liberté d'esprit nous est laissée, à nous, de ne pas en mésuser gravement.
Qui êtes-vous ?
Je suis l'âme errante.
Et comment vous appelez-vous ?
Nadia. Parce qu'en russe, c'est le commencement du mot espérance. Et parce que ce n'en est que le commencement.
Philippe Soupeau.
Je crois que ce qu'il y avait chez Breton, c'était une extrême pureté. Et la preuve, c'est qu'il avait un culte absolument violent pour l'amour. Je ne dis pas le libertinage, ni la pornographie. Bien sûr, au contraire, il y avait chez Breton un peu de puritanisme.
Il y a cette rencontre décisive, celle de Léona Delcourt, cette jeune femme qui lui a inspiré Nadja, et qui devait... mourir atteinte de cachexie dans un asile du Nord à Bailleul en 1941. Et voici maintenant un extrait de Nadja.
Quelqu'un suggérait à un auteur de ma connaissance, à propos d'un ouvrage de lui qui allait paraître et dont l'héroïne pouvait être trop bien reconnue, de changer au moins encore la couleur de ses cheveux. Blonde, elle eut chance, paraît-il, de ne pas trahir une femme brune. Eh bien, je ne trouve pas cela enfantin, je trouve cela scandaleux. Je persiste à réclamer les noms, à ne m'intéresser qu'aux livres qu'on laisse battant comme des portes et desquels on n'a pas à chercher la clé. Fort heureusement, les jours de la littérature psychologique à affabulation romanesque sont comptés. Je m'assure que le coup dont elle ne se relèvera pas lui a été porté par Huysmans. Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre, au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. Certes, rien ne me subjugue tant que la disparition totale de Lautréamont derrière son œuvre. Et j'ai toujours présent à l'esprit son inexorable tic, tic et tic. Mais il reste pour moi quelque chose de surnaturel dans les circonstances d'un effacement humain aussi complet. Il serait par trop vain d'y prétendre, et je me persuade aisément que cette ambition, de la part de ceux qui se retranchent derrière elle, ne témoigne de rien que de peu honorable.
À côté de la rencontre de Nadja, des sentiments qui naissent entre Nadja et le narrateur, il y a évidemment le paysage de Paris, ce paysage que les surréalistes ont exploré, Breton, Aragon et quelques autres. De tant de rendez-vous que les yeux fermés, Desnos m'a donné pour plus tard avec lui, avec quelqu'un d'autre ou avec moi-même, il n'en est pas un que je me sente encore le courage de manquer, pas un seul, au lieu et à l'heure les plus invraisemblables, où je ne sois sûr de trouver qui il m'a dit. On peut en attendant être sûr de me rencontrer dans Paris, de ne pas passer plus de 3 jours sans me voir aller et venir vers la fin de l'après-midi, boulevard Bonne Nouvelle, entre l'imprimerie du matin et le boulevard de Strasbourg. Je ne sais pourquoi c'est là en effet que mes pas me portent, que je me rends presque toujours, sans but déterminé, sans rien de décidant que cette donnée obscure, à savoir que c'est là que se passera cela. Je ne vois guère sur ce rapide parcours ce qui pourrait, même à mon insu, constituer pour moi un pôle d'attraction, ni dans l'espace ni dans le temps. Non, pas même la très belle et très inutile Porte Saint-Denis. Pas même le souvenir du 8e et dernier épisode d'un film que j'ai vu passer là, tout près, durant lequel un Chinois qui avait trouvé je ne sais quel moyen de se multiplier envahissait New York à lui seul, à quelques millions d'exemplaires de lui seul. Il entrait, suivi de lui-même, et de lui-même, et de lui-même, et de lui-même, dans le bureau du président Wilson, qui ôtait son binocle. Ce film, de beaucoup celui qui m'a le plus frappé, s'appelait « Étreinte de la pieuvre ».
Man Ray, au travers des années, vous avez été un peu l'œil témoin du groupe surréaliste. Vous avez pris des photos, vous avez photographié absolument tout le monde, et en particulier Breton.
J'ai pensé toujours à un lion, comme un roi, comme un général, quelqu'un qui dirige les choses. Il y avait aussi le visage très asymétrique, le côté droit et gauche. Cette dissymétrie, c'était l'expression, une sorte de problème qu'il avait, de se contredire du jour au lendemain. Et c'est ça que je trouvais magnifique chez lui, le côté contradictoire.
Extrait de Nadja d'André Breton.
Est-ce ma faute si les femmes couchent à la belle étoile, alors même qu'elles font mine de nous garder avec elles dans leur chambre luxueuse? Elles disposent sur nous d'une puissance d'échec incroyable, avec laquelle je me flatte de compter. De compter comme un lac avec les éphémères. Le lac doit être charmé par la brièveté incomparable de leur vie. Et moi, j'envie l'optique changeante de la femme, pour qui l'avenir n'est jamais l'au-delà, qui fronce sourcil devant mes calculs et qui est sûre que je l'accepterai du saccage, sûre qu'elle échappera à l'extermination que je médite. Elle n'est pas fâchée, au contraire, de la faible résistance qu'opposent à mon désir d'irréel et les autres hommes et tout ce dont notre amour se passera bien. Nous aimer. Ne resterait-il que quelques jours? Nous aimer, parce que nous sommes seuls à la suite de ce fameux tremblement de terre et qu'on ne parviendra jamais à nous dégager, en raison du trop grand amoncellement de décombres. Il ne reste que cette ressource, nous aimer. Je n'ai point imaginé de ma vie de plus belle fin. Là, nous n'aurions plus, dites, à faire la part des choses. Quelques mètres carrés nous suffiraient. Oh, je sais que vous ne serez pas de mon avis, mais si vous m'aimiez. Et puis, c'est un peu ce qui nous arrive. Paris s'est écroulé hier. Nous sommes très bas, très bas, où nous n'avons guère de place. Il n'y a ni pain, ni eau. Vous qui aviez peur de la prison, avant peu ce sera fini. Oui, l'on voudrait bien avoir une arme pour s'en servir le troisième, le quatrième jour, mais voilà. Pourtant, songez-y, qu'est-ce qu'une union du genre de la nôtre ne réalise pas ? Vous êtes à moi, pour la première fois peut-être. Vous ne vous éloignerez pas. Vous n'aurez plus à prendre votre parti de me manquer quelques heures. Une seconde. Inutile ? C'est fermé de tous côtés, je vous assure. Et nous aimer tant qu'il se pourra. Parce que, voyez-vous, moi qui ai accepté l'augure de ce formidable écroulement, j'ai cessé un peu de le souhaiter la première fois que je vous ai vu. Tenez, voici notre avant-dernière veilleuse qui baisse. Nous n'allumerons l'autre que lorsqu'il se fera tout à fait tard dans notre vie. Ce sera mieux, croyez-moi. Mais viens plus près, encore plus près. C'est toi ? L'avons-nous assez désiré, rappelle-toi. Cette ignorance du reste. Tu ne voulais plus danser ? Tu voulais que le temps que tu étais retenu loin de moi, je le passasse à t'écrire. Est-il vrai ? Maintenant, nous sommes livrés pour l'éternité à nous-mêmes. Il commence à faire nuit. Quoi ? Vous pleurez ? Je crains que vous ne m'aimiez pas.
Quel jour sommes-nous ? Nous sommes tous les jours, mon ami. Nous sommes toute la vie, mon amour. Nous nous aimons et nous vivons, nous vivons et nous nous aimons. Et nous ne savons pas ce que c'est que la vie. Et nous ne savons pas ce que c'est que le jour. Et nous ne savons pas ce que c'est que l'amour.
Salvador Dali. Il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que Breton a bien précisé, dans ses premiers manifestes, que l'art n'avait pas de place dans le surréalisme. Et il a même désigné la peinture de manière expresse. Puis ensuite, il lui a ouvert la porte et a admis qu'il pouvait y avoir une peinture surréaliste.
Mais toujours, il a considéré la peinture comme moyen d'expression, mais jamais comme un but esthétique en lui-même. J'étais avec André Breton au musée du Louvre pour essayer de lui faire voir la beauté de certains tableaux de Vermeer, par exemple. Il était absolument pas sensible du tout à tout ce qui est réellement pictural.
L'art, les tableaux, la peinture, beaucoup plus évidemment que la musique pour laquelle il avouait n'avoir aucune disposition particulière, ont beaucoup compté dans la vie d'André Breton. L'art et pas les musées. Or, je l'avoue, j'ai passé comme un fou dans les salles glissantes des musées. Je ne suis pas le seul. Pour quelques regards merveilleux que m'ont jeté des femmes en tout semblable à celles d'aujourd'hui, je n'ai pas été dupe un instant de ce que m'offraient d'inconnus ces murs souterrains et inébranlables. J'ai délaissé, sans remords, d'adorables suppliantes. C'était trop de scènes à la fois sur lesquelles je ne me sentais pas le cœur de jouer. À travers toutes ces compositions religieuses, toutes ces allégories champêtres, je perdais irrésistiblement le sens de mon rôle. Dehors, la rue disposait pour moi de 1000 plus vrais enchantements. Ce n'est pas ma faute si je ne puis me défendre d'une profonde lassitude à l'interminable défilé des concurrents de ce prix de Rome gigantesque, où rien, ni le sujet, ni la manière de le traiter n'est laissé facultatif. Je n'entends pas par là faire entendre qu'aucune émotion ne peut se dégager en peinture d'une Léda, qu'un soleil déchirant ne puisse se coucher dans un décor de palais romain, ni même qu'il soit impossible de donner quelque semblant de moralité éternelle à l'illustration d'une fable aussi ridicule que La mort et le bûcheron. Je pense simplement que le génie ne gagne rien, à emprunter ses chemins battus ou ses voies détournées. De telles gageures sont pour le moins inutiles. Il n'est rien. Avec quoi il soit si dangereux de prendre des libertés comme avec la liberté. Enfant, nous avions des jouets qui aujourd'hui nous feraient pleurer de pitié et de rage. Plus tard, qui sait, nous reverrons comme ceux de notre enfance les jouets de toute notre vie. C'est Picasso qui m'y fait songer. La femme en chemise, 1914. Et cette nature morte, où l'inscription « Vive là !» éclate sur un vase blanc, au-dessus de deux drapeaux croisés. Cette impression, je ne l'ai jamais éprouvée si fortement qu'à l'occasion du ballet Mercure, il y a quelques années. Nous grandissons jusqu'à un certain âge, paraît-il, et nos jouets grandissent avec nous. En fonction du drame qui n'a pour théâtre que l'esprit, Picasso, créateur de jouets tragiques à l'intention des adultes, a grandi l'homme et mis, sous couleur parfois de l'exaspéré, un terme à son agitation puérile. Et puis un peu plus tard, on découvre ceci. Longtemps, je pense, les hommes éprouveront le besoin de remonter jusqu'à ces véritables sources le fleuve magique qui s'écoule de leurs yeux, baignant dans la même lumière, dans la même ombre hallucinatoire, les choses qui sont et celles qui ne sont pas. Sans toujours bien savoir à qui ils en doivent la troublante découverte, ils placeront une de ces sources très au-dessus du sommet de toute montagne. La région où se condensent les vapeurs charmantes de ce qu'ils ne connaissent pas encore et de ce qu'ils vont aimer, cette région leur apparaîtra dans un éclair. Qui sait ? Peut-être là encore établiront-ils leur comptoir misérable, se multiplieront, s'extermineront-ils, et n'auront-ils d'autre envie que de revenir à terre après avoir pillé ? Alors, s'ils restent au monde, à travers le désordre du vain et de l'obscur, une seule apparence de résolution parfaite, de réduction idéale à un point, de tout ce qui a bien voulu se proposer et s'imposer à nous à l'époque lointaine de notre vie, je ne demande pas mieux que ce soit les 20 ou 30 tableaux dont nous avons fait les seuls rivages heureux de notre pensée, heureux sans y penser, heureux, après tout, qu'il y ait des rivages. Les mots, les images, les touchés sont cruels. Je n'écris pas ce que je croyais penser. Le pinceau merveilleux des joncs n'arrive qu'imparfaitement à tracer et à limiter la nappe d'eau. Le chant obscur des oiseaux paraît venir de trop haut dans les bois. Je sais que Braque eut naguère l'idée de transporter deux ou trois de ses tableaux au sein d'un champ de blé pour voir s'il tenait. C'est peut-être très beau, à condition qu'on ne se demande pas à quoi, à côté de quoi tient le champ de blé. Pour moi, les seuls tableaux que j'aime, y compris ceux de Braque, sont ceux qui tiennent devant la famine. André Breton, nous vous l'avons dit, est mort en 1966. Vous pouvez aller voir sa tombe au cimetière des Batignolles et lire avec un serrement de cœur la phrase « Je cherche l'or du temps ». Juste avant sa mort, il avait écrit une manière de testament.
Le surréalisme vous introduira dans la mort qui est une société secrète. Il gantera votre main et ensevelissant l'aime profond par quoi commence le mot mémoire. Ne manquez pas de prendre d'heureuses dispositions testamentaires. Je demande pour ma part à être conduit au cimetière dans une voiture de déménagement.
André Breton.
Ma vie aura été vouée à ce que je tenais pour beau et pour juste. Tout compte fait, j'ai vécu jusqu'à ce jour comme j'avais rêvé de vivre. Dans le combat que j'ai mené, je n'ai jamais manqué de compagnons tout aussi décidés que moi. Grâce à eux, je n'ai jamais été privé de chaleur humaine. Il est vrai que j'ai dû me séparer de certains d'entre eux qui m'étaient chers, que d'autres m'ont quitté, et qu'il en est dont le souvenir m'a longtemps poursuivi, dont le souvenir m'assaille encore à certaines heures. Mais je crois qu'il le fallait, si l'on voulait sauver l'enjeu initial, et que rien ne pouvait être gagné qu'à ce prix. Et la partie a bien été gagnée dans une large mesure. Je ne veux y mettre aucune vanité, mais il est assez généralement reconnu aujourd'hui que le surréalisme a contribué pour une grande part à modeler la sensibilité moderne.
Les admirations littéraires de François Sureau.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Elle a été préparée par Perrine Malinge, enregistrée par Cédric Chatelus.
La semaine prochaine, Victoire et moi, nous vous ferons voyager à travers la vie d'Henry Miller.